C'est l'une des institutions les plus importantes de l'arc jurassien. D'abord parce qu'elle développe et fait rayonner le savoir et la recherche sur l'ensemble de la région et bien au-delà. Mais l'institution que nous avons conviée ce soir dans Sortie de boîte est également une fourmilière. Une fourmilière qui draine des étudiants et des chercheurs d'un peu partout en Suisse, d'Europe et d'ailleurs autour du globe. L'institution accueille 4100 étudiants, la moitié vient d'autres cantons suisses et le 20% sont de l'étranger. Pour encadrer ces 4100 étudiants, 780 équivalents plein temps travaillent dans l'administration ou dans l'une des quatre facultés. Quand vous évoquez l'institution avec les étudiants, ce qu'ils apprécient avant tout, outre le cadre et l'environnement, c'est la proximité qu'il est possible de nouer avec les professeurs, ce qui favorise notamment la qualité de l'enseignement. Cette institution, c'est l'Université de Neuchâtel, et ce soir, on accueille son recteur, Kilian Stoffel. Bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte. Adrien Juvet.
Alors vous êtes recteur de l'Université de Neuchâtel, vous êtes, si on peut dire, le patron de cette université. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a incité à venir à l'Université de Neuchâtel?
Alors c'était une sorte de suite de ma carrière académique. J'ai fait une formation en Suisse, je suis passé après aux États-Unis pendant 3 ans et c'était une décision entre professionnelle et privée de revenir en Suisse et il y avait l'occasion de se candidater pour un poste ici à Neuchâtel et j'ai eu la chance d'obtenir ce poste.
Mais comment devient-on recteur dans votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler, comme vous nous l'avez dit, pour cette fonction?
Alors, c'est quelque chose qui m'a assez vite, après l'arrivée ici à Neuchâtel, intéressé, c'est le fonctionnement politique, stratégique de la formation tertiaire. Alors, j'ai commencé à m'intéresser pour ces choses-là, et de fur et à mesure, j'ai occupé l'une ou l'autre fonction qui tournait autour de ces thématiques. D'abord, c'était par exemple la commission informatique de la Conférence des universités suisses. Plus tard, c'était des fonctions dans le décanat de la faculté de sciences économiques et encore plus tard maintenant, des rôles au sein du rectorat.
Pourtant, dans votre parcours, vous travaillez aux États-Unis, vous venez ensuite à l'Université de Neuchâtel. J'ai envie de vous dire, l'Université de Neuchâtel, elle est toute petite pour vous, c'était quand même intéressant.
Ah, c'était très intéressant le changement, il y avait quelque chose qui était bien, le contenu de mes recherches, de mes enseignements, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Ce qui manquait par rapport aux grandes institutions, typiquement aux États-Unis ou privées, c'était un bout d'infrastructure, mais c'était pas trop difficile de s'adapter à cet environnement qui est un petit peu différent, mais pas beaucoup. Pas tant que ça.
Alors, dans cette émission économique où on va se pencher sur le financement de l'Université de Neuchâtel, on va aussi parler de vous. Vous êtes au Valaisan, à l'école primaire, quand vous étiez enfant, vous étiez déjà un premier de classe, si on peut dire?
Ouais, je pense qu'on pourrait le prendre autrement. Je crois, justement, je venais d'un tout petit village où il y avait, pour l'école primaire, que 2 classes. La première, deuxième, troisième année était dans une classe, et quatrième, cinquième, sixième, dans une autre classe. La notion de premier devient très différente, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque, et c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui, parce que c'était des enseignement plus individualisé. C'était des tout petites classes, mais on pouvait aussi écouter ce que les autres classes faisaient, ainsi de suite. Une sorte d'interdisciplinarité était déjà en place.
Justement, vous êtes au Valaisan, vous avez été à l'Université de Fribourg, vous avez été sur la côte Est des États-Unis, puis aujourd'hui vous êtes le patron de l'Université de Neuchâtel. Pourquoi, à vos yeux, dans ce parcours, l'Université de Neuchâtel, c'est la meilleure université?
Il y a plusieurs dimensions. J'aimerais d'abord peut-être répondre par rapport à l'enseignement. Moi, je crois que l'enseignement, le contenu des enseignements sont devenus soit standard, très standard, et là c'est la qualité d'enseignement et l'encadrement qui joue un rôle très important, et je pense que c'est vraiment quelque chose que nous on a mis en avant. Alors c'est un enseignement vraiment orienté personne, et ça dans les grandes institutions c'est difficile à faire. Et l'autre chose qu'on a fait, c'est dans les domaines où le contenu joue un rôle, on a choisi nos niches, et je pense que dans ces domaines-là, on a atteint le niveau absolument top.
Alors justement, parlons de ce que vous proposez à l'Université de Neuchâtel. Le site est chargé d'histoire, hein. On parle de l'Académie, à la fondation en 1840, à une époque encore prussienne, à Neuchâtel. Au début, on enseignait la théologie. Et aujourd'hui, la faculté de théologie à l'Université de Neuchâtel n'existe plus. Pour vous, c'est un pincement au cœur ou au contraire, l'Université de Neuchâtel ne peut plus tout faire.
Pour la CREA, c'est clair que beaucoup d'institutions tertiaires, d'universités ainsi de suite, sont sorties ou étaient créées sur la base de facultés de théologie. Et il y a eu une évolution au niveau de la société, ce n'est pas tellement une évolution des universités, mais au niveau des sociétés, qui a eu comme conséquence qu'on avait extrêmement peu, voire quasiment plus d'étudiants dans ces disciplines-là. C'est quelque chose qui pose après effectivement un problème. Mais de l'autre côté, ça fait très mal d'une certaine manière de perdre des compétences, de perdre des disciplines si on est dans l'enseignement. Et ça, c'était pour le cas, par exemple, de la faculté de théologie. On avait clairement perdu certains enseignements qui jouent d'ailleurs de nouveau des grands de rôles aujourd'hui, des questions de morale, éthique, avec beaucoup de développement de la société, sont toujours de grand intérêt.
Il y a certaines branches, si on peut dire historiques, par exemple les sciences naturelles, qui sont importantes à vos yeux, qui sont prises en considération quand on réfléchit à ce que l'Université de Neuchâtel propose.
Alors, si vous mentionnez les sciences naturelles, c'est un bon exemple pour l'Université de Neuchâtel. La faculté des sciences était fortement restructurée il y a une quinzaine d'années en arrière et elle a construit aujourd'hui des formations dans les systèmes naturels, typiquement, qui est une formation très moderne, qui se base sur les piliers historiques. Alors, elle a continué dans son histoire, si on veut, mais de l'autre côté, elle a eu la possibilité de proposer un enseignement tout à fait moderne.
Kilian Stoffel, vos journées en tant que recteur sont rythmées par des séances, tant à l'interne qu'à l'externe. Joël Picromain a partagé quelques instants de l'une de vos journées. Vous êtes allé voir comment se déroulait le lancement d'une campagne contre le sexisme et le harcèlement. On vous retrouve devant le bâtiment de la faculté de droit et des sciences économiques avant de retourner au rectorat.
Sortie de boîte.
On entre par la grande porte devant.
Ouais.
Ouais.
C'est ça. Ouais.
Bonjour.
Voilà, c'était juste de voir avec vous comment vous avez lancé le truc, si ça a bien fonctionné.
Ça se passe bien pour le moment, vraiment.
Ouais, ouais.
Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de réactions positives.
Ah,
pas mal de monde. Aujourd'hui, on est donc en faculté de droit et puis on est aussi en faculté des sciences.
Ah, cool.
Et puis je suis monté aussi en faculté des sciences avant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui sont intéressés. Pas mal de gens qui saluent l'initiative avec vraiment des feedbacks positifs. C'est vraiment intéressant.
Ah, c'est super.
Ouais.
Alors, tout le travail, c'est valorisé maintenant. Ça vaut la peine.
Exactement, complètement.
C'est,
ouais. Ouais, ouais.
C'est des petits moments comme ça qui
Bonjour.
Font... Ah bah ouais, vous connaissez tout le monde aussi ici. Ces petits moments-là, c'est vraiment... quelque chose d'important, comme dans une entreprise, un patron d'entreprise qui vient dans les ateliers voir ce qui se passe quand il y a quelque chose de nouveau qui est lancé. C'est un peu comparable de montrer la reconnaissance du travail qui est fait.
Oui, je pense que c'est vraiment important. Là, on est, ça je pense c'est d'une certaine manière comparable parce que c'est des services de l'UNI qui travaille sur ça, c'était les ressources humaines. On a des contacts similaires avec nos services de finances, l'informatique, les bâtiments et ainsi de suite. Après, ça change un petit peu dans les relations avec les facultés, où les facultés, pour la partie enseignement-recherche, ont une certaine autonomie. Alors là, la collaboration se passe un petit peu autrement qu'avec les services. C'est peut-être moins comparable directement avec une entreprise. Alors, je pense qu'on peut commencer parce que Félix n'est pas là. Il a aujourd'hui sa séance école doctorale, TP2, TP3 à Berne. Voilà. OK, alors bienvenue à cette séance du 6 mai, séance du rectorat. Alors, je vous propose qu'on va avancer assez vite sur notre ordre du jour parce qu'il y a pas mal de points à l'ordre du jour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce que vous avez reçu l'ordre du jour? Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Ça joue comme ça. Bon.
Vous aurez une avalanche de divers.
OK. Parfait. Merci beaucoup.
Sortie de boîte.
Kilian Stoffel, on vous retrouve. Le rectorat est composé exclusivement d'hommes. La question de la place des femmes dans l'université de Neuchâtel, vous y êtes tout de même sensible ?
Et je pense justement pour ça, on est très sensible, parce que c'était pas voulu comme ça que le rectorat n'avait pas un membre féminin. C'était plutôt la situation de la structure de la communauté universitaire ou du personnel de l'université qui nous a donné ça. Et ça, c'était quand même d'une certaine manière un choc de voir à quel point, même si actuellement les recrutements sont très équilibrés, on recrute autant de femmes que d'hommes, on a encore le lag historique qui est là, que dans les personnes un petit peu plus avancées au niveau de la carrière académique, c'est pas du tout encore le cas. Et on est vraiment très sensible à ces questions-là, et ça reste une préoccupation permanente au niveau du recrutement essentiellement, mais aussi d'autres composantes de la stratégie de l'université.
Alors, on a brièvement évoqué tout à l'heure le financement d'une faculté, mais l'université de Neuchâtel, l'institution, elle se finance comment ?
Pour le dire d'une manière simple, il y a trois tiers qu'on peut analyser qui sont importants. Il y a un tiers, c'est les financements de base qui viennent du canton de Neuchâtel. Il y a un autre tiers qui vient des autres cantons et de la Confédération. Et le troisième tiers vient des mandats de recherche, la recherche compétitive, ou bien les écolages d'autres fonds essentiellement externes à l'université.
Alors les fonds financiers qui viennent d'autres cantons, c'est très important du coup d'avoir des étudiants en provenance d'autres cantons ?
Oui, c'est quelque chose qui est important, voire très important, pour deux raisons. La première raison, c'est que on avait discuté de la masse critique de nos formations. Si on n'avait pas des étudiants d'autres cantons ou même d'autres pays, on n'aurait plus la masse critique pour offrir des formations. Alors c'est très important pour, d'une certaine manière, les Neuchâtelois qui suivent aussi les formations chez nous, pour être capable d'offrir ces formations. Et l'effet de ça en plus, c'est qu'on a des financements qui nous permettent justement d'attirer ces étudiants, voire suisses, soit au niveau international.
Alors ici, à l'université de Neuchâtel, il y a non seulement des étudiants neuchâtelois, il y a des étudiants bernois, il y a des étudiants jurassiens. Comment vous faites pour séduire ces étudiants importants à vos yeux, d'autres cantons, afin qu'ils ne partent pas étudier à l'université de Bâle ou de Fribourg? Comment vous faites?
Bâle est peut-être moins concurrent, parce qu'il y a la question de la langue qui est quand même encore dans tout l'enseignement, joue un rôle très important. Pour les autres universités, disons romandes, on essaie essentiellement de jouer notre stratégie qu'on a mis en place depuis quelques années déjà, c'est d'offrir vraiment ces formations orientées vers la personne. Les autres universités sont déjà plus grandes, ils peuvent moins offrir des encadrements de la qualité, de la forme que nous on peut offrir. Et pour les formations spécialisées, c'est la concurrence, mais d'une certaine manière aussi une assez bonne collaboration avec les autres universités, et on sait qui fait quoi, et là on a nos niches qui sont intéressantes pour les étudiants.
Autre tiers de financement pour l'université de Neuchâtel, c'est le canton de Neuchâtel, l'État. Lorsque le canton de Neuchâtel doit se serrer la ceinture et doit mettre sur pied des pistes d'économie comme l'année dernière, vous, à l'université de Neuchâtel, vous en souffrez de ces pistes d'économie?
Oui, je crois que ça a les mêmes conséquences que pour nous, comme pour toutes les autres institutions qui sont touchées par ces mesures. C'est difficile. Si on prend l'année passée, c'était une année quand même assez difficile, parce que là, il y avait en plus de serrer la ceinture, il y avait cette dimension que dans la négociation pour le budget, l'Uni était utilisée pour trouver 1 million dans ces négociations, et de perdre sur 50 millions, 1 million d'un jour à l'autre, ça pose quand même quelques difficultés.
Vous faites comment du coup? Vous devez licencier, vous devez stopper des investissements, vous faites comment pour trouver ce million?
Notre stratégie dans cette phase difficile, c'était d'éviter à tout prix des licenciements ou des réductions dans la qualité d'enseignement ou d'offres d'enseignement. Ce qu'on a réussi à faire, les choses qu'on pouvait pas nécessairement faire comme les autres années, c'est justement investir dans l'infrastructure et faire des développements qui étaient prévus. C'est des mesures qu'on peut prendre pendant une très courte période, mais c'est pas du tout quelque chose qui est viable, tenable au long terme.
Et puis le troisième tiers, ça vient des entreprises?
Chez nous, la grande partie vient en principe des fonds de recherche compétitifs, fonds nationaux, InnoSuisse et projets européens. Il y a une moindre importance, les collaborations avec les entreprises, entreprises ou d'autres institutions, ce n'est pas seulement des entreprises. Mais la partie principale, c'est la recherche compétitive.
Si on se projette dans le futur, pour attirer de nouveaux étudiants, pour attirer de futurs étudiants à l'Université de Neuchâtel, les formations que vous allez proposer, elles ressembleront à quoi à l'avenir ?
Moi, je suis assez convaincu que cette cloisonnement disciplinaire va tomber. Alors, on va aller vers des formations qui sont plus orientées vers les problèmes, qui sont plus alignées sur les grandes questions posées dans la société. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, que peut-être la structure actuelle qu'on a, qui est encore très historique aussi, va se modifier. Les enseignements vont suivre la même modification structurelle.
Mais ils vont se modifier comment ?
Alors, ça veut dire une composante qu'on voit déjà aujourd'hui d'une manière très présente, c'est l'interdisciplinarité. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place, mais c'est encore très cadré. Ça veut dire que les programmes sont prédéfinis et les étudiants suivent l'interdisciplinarité dans le sens comment c'est défini dans des plans d'études. Et je pense que dans les années à venir, ça va encore plus se flexibiliser, que les étudiants vont avoir plus de possibilités de choisir, de profiler encore plus leur formation selon leur goût et leur souhait.
Et pour vous, si on se projette dans l'avenir, il y a un domaine, un institut à l'Université de Neuchâtel qui est dépositaire d'une plus-value particulière ou qu'il sera à l'avenir ?
Alors, peut-être pas un institut ou une chaire ou quelque chose comme ça, une unité bien définie, mais je crois que ce qui est important, c'est de voir, et c'est notre stratégie est basée sur ça, c'est que les 10 dernières années, on a mis beaucoup l'accent sur l'évolution, l'innovation technologique. Et on voit quand même dans la société qu'il y a d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes pour justement suivre cette évolution-là. Et dans notre stratégie, on est convaincu que les sciences humaines et sociales vont jouer un rôle très important dans les années à venir.
Dans cette émission économique, on doit aussi parler de ce qui se dessine pour la suite de l'Université de Neuchâtel, en termes de bâtiments notamment. Vous avez un projet aux Jeunes Rives de construire un nouveau bâtiment. C'est indispensable à vos yeux ?
Je crois aujourd'hui, le bâtiment est vraiment crucial pour l'université. On a plusieurs domaines où on a besoin de ce bâtiment. C'est d'un côté, ça c'est la partie importante, c'est pour les différentes formes d'enseignement. Il y a des espaces pour les étudiants qui sont très limités dans ce qu'on peut offrir aujourd'hui. Et il faut garder en tête que la faculté de lettres et sciences humaines, quand les bâtiments actuels étaient créés, c'était moins que la moitié des étudiants et de personnel que ce qu'on a aujourd'hui. Alors c'est clair, on est un petit peu à l'étroit à ce moment-là.
Construire un nouveau bâtiment, ça a un coût, vous allez faire comment pour le financer ?
Pour ce type de bâtiment, il y a toujours plusieurs dimensions. Il y a des contributions de la Confédération, et il y a les dimensions de ce que le canton met dans ces constructions. Alors, dans les bâtiments que l'État nous met à disposition, ça, je pense que c'est important de comprendre, c'est l'État met les bâtiments à disposition de l'université. L'université paye en revanche un loyer pour ces bâtiments. Et je pense, dans ce contexte-là, l'État constructeur du bâtiment et l'université utilisateur définit plus ou moins le modèle de financement de ce bâtiment.
Puis, autre question politique, si on peut dire, où vous êtes aujourd'hui concentré majoritairement sur Unilac et Unimail. La ville de La Chaux-de-Fonds, elle, souhaite une délocalisation de l'université avec certaines formations proposées dans la métropole horlogère. Comment vous, recteur, vous positionnez par rapport à cette envie de la ville de La Chaux-de-Fonds, des autorités communales, de voir l'université de Neuchâtel plus présente dans les montagnes ?
Alors, c'est quelque chose de très important pour nous. Alors, ça fait aussi partie de nos propres intentions. Et on est très content qu'on ait prêt à nous voir arriver à différents lieux, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On a beaucoup d'activités un petit peu partout dans le canton, mais aussi au Jura. Mais c'est des activités qui sont plutôt orientées à des projets, des recherches ou des choses de ce type-là. Et nous avons maintenant régulièrement des discussions avec les autorités chaudes-fondières pour améliorer cette situation. Et je pense qu'on a trouvé des pistes à explorer qui, très prochainement, pourraient porter les premiers fruits. Alors, pour donner un exemple, si vraiment le canton décide d'installer le pôle archivistique à la ville de la Chaux-de-Fonds, ça nous permettrait certainement à côté université de créer un centre de compétences autour de ce pôle-là qui aurait beaucoup d'activités en commun, par exemple avec l'Institut d'histoire, mais aussi d'autres instituts.
Une dernière question, dans 25 ans, on se projette encore plus loin, l'université de Neuchâtel, elle ressemblera à quoi à vos yeux ?
Alors je pense que c'est un petit peu ce qu'on a mentionné avant, que les formations vont un petit peu quitter ce domaine traditionnel, ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Et il faut quand même aussi réaliser que l'université, d'une certaine manière, l'image de la société, alors elle va d'une certaine manière évoluer avec la société, mais on voit déjà toutes les tendances, c'est que la formation tertiaire, en tout cas dans un pays comme la Suisse, va gagner en importance. Alors je pense qu'il va y avoir plus d'étudiants, il y a plus de personnes qui cherchent des formations tertiaires, qui ne sont pas seulement dans les universités, mais dans les autres écoles tertiaires d'une manière générale. Et cette évolution-là va certainement changer typiquement le contenu des formations qu'on connaît aujourd'hui.
Kylian Stoffel, merci d'avoir été notre invité ce soir dans Sortie de boîte. Belle soirée.
Merci beaucoup, excellente soirée aussi.
Et pour conclure cette émission, place à la chronique horlogère Pile à l'heure, réalisée cette semaine par Marie-Lise Saillard.
Pile à l'heure.
Il y a des noms qui ont marqué l'histoire de l'horlogerie. Souvent, ils se retrouvent dans une marque horlogère ou dans une rue, ou les deux, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui. La rue en question se trouve dans le village natal du personnage dont nous parlons. Ce personnage, c'est Édouard Beauvais. Mais la rue de Fleurier ne s'appelle pas rue Édouard Beauvais, elle s'appelle rue Beauvais de Chine. Les Beauvais, c'est carrément une dynastie du Val de Travers, une dynastie qui a dominé le commerce de l'horlogerie suisse en Chine pendant plusieurs décennies. Édouard, c'est le membre le plus célèbre de cette famille. Fils d'horloger, Édouard Beauvais est né à Fleurier en 1797. Il débarque en Chine à Canton en 1818 pour le compte d'un négociant anglais. La maison Beauvais est fondée en 1822 avec ses frères Frédéric et Alphonse qui eux sont à Londres. Il y a aussi Gustave qui est resté à Fleurier et ensuite Charles. C'est dans le Val de Travers que sont fabriquées les montres de poche dotées de ce qu'on appelle le calibre chinois. Et apparemment, ce n'est pas de tout repos de bosser en Chine au 19e siècle. Il y a des tensions qui sont diverses et nombreuses. Il y a des incendies aussi et des guerres de l'opium.
Entrez, monsieur, je vous en prie. Prenez ma couche de votre joint.
Merci.
Je ne sais pas.
Mais Édouard Beauvais s'en sort très bien. Il fait fortune, son business procure du boulot à des centaines de personnes dans le Val de Travers. Et Édouard revient à Fleurier en 1830. Il s'installe dans ce qu'on appelle le Palais Chinois, le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'hôtel de ville et les bureaux de la certification qualité Fleurier. Édouard Beauvais tire définitivement sa révérence en 1849 dans le village où il est né.
La boucle est bouclée.
Et la marque horlogère Beauvais, me direz-vous ? Eh bien oui, elle existe. Elle s'appelle même Beauvais Fleurier. Son siège est dans le canton de Genève, mais une partie de ses activités est aujourd'hui abritée au cœur du château de Mautier, toujours dans le Val de Travers. Ce bâtiment, le château, a été construit au XIVe siècle. Il a été vendu en 1835 à Henri-François Dubois Beauvais, un descendant d'Édouard, et ses arrière-petits-enfants en ont fait don à l'État de Neuchâtel en 1957. Le patron de la marque Beauvais Fleurier, Pascal Raffi, a lui racheté le château en 2006.
Pile à l'heure.
Merci d'avoir été avec nous ce soir. Cette émission est à retrouver sur notre site internet dès maintenant. Excellente soirée.
Sortie de boîte.